Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Le 25 août 1818, Paris est en fête. C'est la Saint-Louis, prénom de plusieurs rois de France, dont le roi Louis XVIII. Et sur le Pont Neuf, la foule se presse pour assister à l'inauguration d'une statue équestre monumentale en bronze, celle du roi Henri IV, fondateur de la lignée des rois Bourbons. Une manière donc de légitimer le roi revenu à Paris 3 ans auparavant. Et comme dans toute inauguration, il y a une tribune officielle dressée en face de l'entrée de la place Dauphine. Il y a des discours et ce jour-là, c'est le marquis de Marbois qui célèbre devant Louis XVIII la mémoire d'Henri IV, modèle des rois. On distribue des médailles et notamment pour chacun des souscripteurs de cette statue pour laquelle les fonds nécessaires avaient été réunis par souscription nationale. Alors, vous l'avez compris, dans cette émission, nous allons parler à la fois d'histoire et d'art, parce que cette statue est une œuvre d'art. Elle se trouve sur le Pont Neuf, à Paris, mais nous évoquerons aussi les vicissitudes de l'histoire de cette statue, ainsi que les curieuses boîtes qui avaient été cachées à l'intérieur et qui ont été retrouvées il y a à peine quelques années. Pour évoquer toute cette histoire, j'ai le plaisir de recevoir M. Jean-Pierre Bablon de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Bonjour M. Bablon.
Bonjour Madame.
Merci de venir dans le studio de Canal Académie, un jour académique le vendredi. Je voudrais tout d'abord rappeler que vous êtes historien, archiviste, paléographe et que vous avez publié de très nombreuses études sur les grands monuments nationaux et vous m'excuserez de ne pouvoir en citer que quelques-unes. La Sainte-Chapelle, l'église Saint-Roch à Paris, le Louvre, le quartier du Marais, les châteaux de France, tant Versailles que Chantilly, et ceux de la Loire, que vous avez écrit aussi un très bel album sur l'histoire de l'Institut de France, là où nous sommes, et que vous vous êtes penché récemment sur les fresques du Primatis à l'abbaye royale de Chalais. On va en parler tout à l'heure. Tout cela fait l'objet de plusieurs émissions, d'ailleurs, disponibles à l'écoute sur Canal Académie. Et vous avez aussi écrit des ouvrages sur le bon roi Henri, Henri IV, puisque vous présidez la société Henri IV. En 2005, l'administration des monuments historiques décide un programme de restauration du Pont Neuf à Paris qui inclut un traitement spécifique de la statue équestre du roi Henri qui se dresse sur le terre-plein qui domine le Vert-Galant. Admirable endroit et en nous penchant un petit peu par la fenêtre, nous pourrions le voir puisque les studios de Canal Académie donnent sur cet endroit le jardin du Vert-Galant. Alors ce Pont Neuf, Monsieur Bablon, qui avait décidé de le construire? De quand date-t-il?
Eh bien, c'était une décision d'Henri III. C'est Henri III qui avait lancé le chantier et c'est très intéressant au point de vue de l'histoire de Paris puisque cette partie de la rive gauche était une partie un petit peu délaissée, n'est-ce pas, qui était en dehors des grandes abbayes, Saint-Germain-des-Prés et puis la paroisse Saint-Sulpice. Donc c'était un espace qui était un petit peu à l'abandon et il se dressait en face du palais du Louvre qui lui était bien construit et puis un environnement urbanisé depuis longtemps. Et Henri III a décidé de lancer un pont qui prendrait un repos sur la pointe de l'île de la Cité en réunissant la rive droite et la rive gauche. Mais ça devait être, je suppose, dans les origines, un pont normal, c'est-à-dire un pont avec des rangées de maisons sur les deux
habité,
côtés.
Oui, c'est ça.
Habité, c'est ça, parce qu'on ne concevait pas de pont en ville autrement. Et finalement, c'est Henri IV qui a décidé, dans son dessein, de poursuivre l'œuvre architecturale d'Henri III, comme il l'a fait pour la façade du Louvre, la façade de la petite cour carrée qui était celle de l'ancien Louvre. Il a poursuivi les travaux d'Henri III et il a donc décidé de construire, de jeter ce grand pont, mais aux merveilles, d'en faire le boulevard des Parisiens, puisqu'on ne construisait pas de maisons et que même au-dessus des piles nombreuses de ce pont qui enjambait donc le grand bras et le petit bras, il y avait des petits arrondis avec des bancs où on pouvait s'asseoir et regarder le paysage.
C'est un pont promenade, alors, un pont de plaisir.
Voilà.
Alors, on va revenir avec vous sur l'histoire de cette statue de Henri IV, parce que c'est une histoire qui se déroule en plusieurs épisodes. Premier épisode, la statue est érigée en 1614. Alors, rappelons, s'il en est besoin, que Henri IV a été assassiné en 1610. Et quel fut le rôle de son épouse, donc Marie de Médicis, dans l'érection de cette statue?
Eh bien, il faut penser que, bon, comme son nom l'indique, Marie était une Médicis. Les Médicis ont joué un rôle, bon, dans l'histoire de l'art d'une façon générale que l'on connaît bien, mais aussi dans l'histoire de l'objet architectural implanté dans le paysage et notamment dans la statue. Et les Médicis ont voulu véritablement s'inscrire dans le ciel, bon, à la suite notamment des grandes statues équestres qui avaient été érigées, bon, le Marc Aurèle antique sur la place de Rome. Et puis après ça, le Gattamelata et le Colleone dans les villes du nord de l'Italie. Et finalement, les Médicis se sont emparés de cette idée en disant « Mais nous aussi, nous allons faire des statues équestres. » Et Marie de Médicis, après la mort de son époux, sachant d'ailleurs combien, et nous le savons encore plus maintenant après des recherches récentes au Musée des Offices, combien les Médicis avaient voulu honorer la mémoire du roi assassiné. Nous allons avoir au musée de Pau l'année prochaine une exposition très intéressante de toutes les grandes toiles qui ont été peintes par des peintres italiens pour faire la commémoration funèbre d'Henri IV. Donc c'était une grande fuite de toiles, une vingtaine de toiles qui ont été retrouvées et qui seront exposées à Florence et prêtées également au château de Pau. C'est une manifestation intéressante, un véritable événement. Donc, s'associant à cette commémoration du roi, donc les Médicis ont été joints par la reine Marie en disant « Mais j'aimerais bien ériger une statue », comme d'ailleurs Catherine de Médicis avait tenté de le faire autrefois pour Henri II, sans succès. Donc, une statue équestre pour Henri IV, voulue par une Marie de Médicis.
Alors, où est-elle exécutée? Dans quel atelier? Comment arrive-t-elle à Paris?
Eh bien, voilà, autrefois, Catherine de Médicis avait pensé que Michel-Ange pourrait lui faire son Henri II, mais Michel-Ange n'a pas dit oui. Pour Henri IV, eh bien, on s'est adressé à Gian Bologna, mais qui est mort entre-temps. Et finalement, c'est l'élève de Bologna, Pietro Tacca, qui a été chargé de faire la statue en réutilisant probablement un modèle de cheval de bronze qui avait été prévu pour une statue du grand-duc. Alors, le grand-duc a accepté d'envoyer la statue qui avait été fabriquée. Cette statue est partie du port de Livourne et puis elle a fait naufrage en Méditerranée. On l'a récupérée comme on a pu, n'est-ce pas? Et puis finalement, elle est arrivée à Paris. Et
par la Seine.
Par la Seine, voilà.
C'est ça qui est
amusant. Toujours par la Seine que les choses arrivent, n'est-ce pas?
Alors, cette statue équestre, elle repose sur un socle. Y a-t-il quelque chose à dire sur ce socle?
Oui, tout à fait. C'est la statue monument, n'est-ce pas? C'est ça qui est important, c'est que c'est une commémoration des grandes actions du règne avec des bas-reliefs d'une part et puis des figures représentant des esclaves qui font partie du triomphe du roi, n'est-ce pas, et qui sont tous les emblèmes que vous pouvez imaginer des forces du mal qui ont été vaincues par Henri IV.
Donc voici la fin de ce premier épisode, début du XVIIe siècle. Deuxième épisode, la Révolution. Alors là, on est en 1792 et la pauvre statue va subir, elle aussi, les désastres révolutionnaires.
Oui, les textes de la Révolution sont très, très intéressants, puisque au début de la Révolution, je dirais la Révolution parlementaire, on a voulu voir dans Henri IV véritablement celui qui pourrait être le guide de la nation pour un pouvoir exécutif. C'est ainsi que les enrôlements de l'armée pour défendre la France contre les coalisés se sont faits au pied de la statue d'Henri IV. Donc on lui reconnaissait un rôle politique tout à fait émouvant. Puis finalement, lorsque véritablement la monarchie est tombée, les révolutionnaires se sont dit « Bon, ben voilà, on ne peut pas garder la statue. On a célébré les vertus du roi. Finalement, elle n'était pas si extraordinaire. Et puis surtout, ça n'était pas un roi constitutionnel. » Alors, à bas les rois qui ne sont pas constitutionnels et on a abattu la statue.
Pauvre statue, mais pas, on ne l'a peut-être pas abattue de gaieté de cœur.
Non, on n'a pas abattu.
Il y en a certains
voilà,
qui ont peut-être été tristes.
Tout à fait. On a gardé des morceaux et vous savez que ces morceaux se trouvent aujourd'hui au musée Carnavalet.
Alors, troisième épisode pour cette statue équestre. Finalement, en 1814, au moment de Louis XVIII, Bourbon, donc, il veut de nouveau réveiller le culte de Henri IV.
Tout à fait, vous avez raison. C'est une valeur sûre, n'est-ce pas? On peut se rattacher à ça. Et Louis XVIII dit, ben voilà, moi je suis un Bourbon, vous avez aimé le cher roi Henri IV, eh bien je reviens et je suis son descendant. Ce qui est très, très amusant et intéressant, c'est ces années charnières, n'est-ce pas? Tout à fait au début, bon, au moment de la première restauration, Louis XVIII va arriver et il dit, bon, ben, il me faut quelque chose sur le socle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les autorités se réunissent en disant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une statue en plâtre. Et il y a un sculpteur, Roguier, qui fait une statue en plâtre en quelques semaines, n'est-ce pas ? Incroyable. Donc Louis XVIII peut passer sous le regard de son ancêtre. Puis après ça, retour de l'île d'Elbe de Napoléon. On avait engagé des frais, et puis la statue, qu'est-ce que va faire Napoléon ? Bon, et finalement, Napoléon dit, je ne paierai pas, mais je laisse la statue en place, ce qui est très intéressant, n'est-ce pas ? Bon, puis finalement. Bon, deuxième chute de Napoléon, les adieux de Fontainebleau, etc. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben maintenant, il ne faut plus que ça soit en plâtre, il faut que ça soit du bronze. Donc, on est allé chercher où est-ce qu'on pourrait trouver du bronze. On a fondu un certain nombre de statues qui étaient érigées dans le souvenir du régime précédent impérial, notamment le Napoléon qui était au-dessus de la colonne Vendôme et puis celui qui était au-dessus de la colonne de Boulogne, de la Grande Armée. On a fondu, on a essayé d'avoir l'alliage qui paraissait le meilleur et les experts avaient dit le meilleur alliage que vous pouvez trouver, c'est les bronzes des frères Keller qui avaient fait les statues qui sont toujours une des merveilles du parterre d'eau à Versailles qui représente les rivières du royaume de France. Donc on a analysé le bronze des Keller et on a dit voilà, il faut tant de cuivre, tant d'étain et finalement c'est telle et telle statue qu'on a jetée à bas qui peuvent véritablement fournir le meilleur bronze et on les envoyait à la fonte.
Alors, est-ce que l'Académie des inscriptions et belles-lettres, justement, n'a pas joué un rôle éminent dans cette décision ?
Oui,
dans ces
bon,
choix,
l'Académie, dans... en fait, c'est surtout c'est l'Académie des beaux-arts aussi qui a intervenu pour que, lorsqu'on relèverait la statue sur son piédestal, on lui donnerait une assise plus lointaine dans le paysage de Paris, n'est-ce pas ? Donc, on a repoussé le piédestal plus loin vers le jardin du Vergalon.
Alors, l'inauguration officielle de cette grande statue monumentale, c'est le 25 août 1818, comme je l'ai dit au début de l'émission. Et même d'ailleurs, Victor Hugo chantait les merveilles de la manière dont on a transporté ce bronze immense. Par mille bras traînés, ce lourd colosse roule, tout un peuple a voué ce bronze à ta mémoire. Alors, c'est une ode merveilleuse.
Ouais. C'est un épisode extraordinaire, parce que depuis la fonderie qui était du côté du Roule, n'est-ce pas ? C'est-à-dire dans le faubourg parisien où se trouve aujourd'hui Saint-Philippe-du-Roule, on avait donc fondu là. Bon. Et puis, ça pesait extrêmement lourd, donc on l'a monté sur un char. Ce char était traîné par des chevaux et puis les chevaux étaient essoufflés. On a remplacé les chevaux par des bœufs. Et puis finalement, à un moment, les bœufs ont dit non, non, non. Ils ont fait sentir qu'on ne pouvait plus. Alors la foule parisienne qui accompagnait le roi s'est elle-même accrochée au chariot et s'est tirée par les Parisiens. Quel plus bel emblème, n'est-ce pas ?
Absolument.
Que le bon roi est arrivé sur le pont.
Alors maintenant, Jean-Pierre Bablon, on va marquer une courte pause et puis on va se retrouver pour que vous nous parliez des boîtes mystérieuses qu'on a trouvées dans cette statue. On se retrouve dans un court instant.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademy.com.
Retour dans notre studio en compagnie de Jean-Pierre Bablon de l'Académie des inscriptions et belles lettres qui s'est penché sur l'histoire de cette monumentale statue en bronze d'Henri IV dans laquelle on a retrouvé des boîtes. Alors il y avait des boîtes, j'allais dire, officielles dont on connaissait l'existence et des boîtes non officielles que l'on a véritablement découvertes. Est-ce que c'est une habitude de cacher des boîtes dans les statues, monsieur
Bablon ? Oui, tout à fait. C'est une habitude de mettre à l'intérieur des monuments des témoignages particuliers de la façon dont ils ont été, enfin bon, de l'événement historique que ces statues érigées ont. Bon. Et je me suis référé à l'un de nos confrères de l'Académie des Beaux-Arts, qui est responsable de deux grandes statues érigées.
Ah oui, Monsieur Cardo.
Monsieur
oui,
Cardo, érigées dans Paris, que tout le monde connaît bien, c'est-à-dire d'une part le Churchill et d'autre part le Grand de Gaulle. Bon, et les relations très amicales que j'ai avec lui, puisqu'il a eu la gentillesse de nous refaire le médaillon de Léonard de Vinci, au tombeau de Léonard de Vinci, au château d'Amboise, dont je m'occupe aussi, m'a révélé qu'il avait, bien sûr, au moment de l'inauguration, enfermé dans la statue des petits éléments. Qu'est-ce que c'est que ces éléments? Eh bien, c'est souvent le nom des entreprises qui ont travaillé à la fabrication du monument. Et on les retrouve ainsi quand on modifie, quand on ouvre la petite porte, n'est-ce pas, qui permet d'accéder au trésor. Donc, on savait très bien que dans la statue d'Henri IV, par le mot, celle de nous, dont nous parlons, celle que nous pouvons toujours admirer dans le ciel parisien, il y avait des boîtes, je dirais, officielles, puisque nous en avions la liste. Et ces boîtes officielles, c'était d'une part le procès-verbal de mise en place du temps de Louis XVIII, et des bons, d'autre part la liste de tous ceux qui ont été les souscripteurs. Ensuite, et ça c'est tout à fait le style historiographique de l'époque, il y avait des grandes histoires d'Henri IV qu'on avait fait relier par le grand relieur du roi, et qui étaient les économies royales de Sully, la Henriade d'Henri IV, et puis d'autres ouvrages. Et puis il y avait aussi des médailles, hein, des médailles en vermeil, qui commémoraient l'événement. Donc ces boîtes-là, on savait qu'elles étaient là.
Voilà, ce n'était pas une surprise.
Ce n'était pas une surprise,
on les a retrouvées.
Voilà. C'est-à-dire que moi, j'étais là au moment de l'ouverture, on a incisé une petite portière. C'était au moment de la restauration pour retrouver la patine de la statue. Donc on a ouvert ces petites portières, on a trouvé donc dans le ventre du cheval les grandes boîtes. Et puis on savait qu'il y avait une espèce de tradition qui voulait que le fondeur qui avait travaillé avec le sculpteur Lemot, qui s'appelait Menel, M-E-S-N-E-L, c'était un homme qui avait des convictions impérialistes, n'est-ce pas, qu'il était napoléonien. On savait aussi que peut-être il n'avait pas été très content d'avoir à utiliser le bronze d'une statue de l'empereur.
Son héros avait
son
été fondu.
Pour Henri IV. Et on s'imaginait qu'on allait trouver dans le bras d'Henri IV une statuette de Napoléon.
C'est une légende
bon, qui courait depuis longtemps. Et en fait, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé trois petites boîtes. Trois petites boîtes dans la tête du roi et dans l'un des bras du roi. Et ces petites boîtes, c'était des boîtes en étain ou une petite boîte en bois. Alors on a transporté ces petites boîtes, on les a ouvertes, on s'est demandé un petit peu ce qu'il pouvait y avoir dedans. On les a confiées à des laboratoires, notamment le laboratoire de recherche des archives nationales qui travaillent sur les documents. Et malheureusement, les deux boîtes en plomb contenaient simplement un petit rouleau de papier ou de tissu qui était adhérent au cylindre de cette boîte. Et qui n'a pas pu être détaché parce qu'il tombait en ruine si on le détachait. Donc nous ne savons pas ce qu'il y avait d'écrit sur ces boîtes. En revanche, dans la troisième, qui était une boîte en forme d'un étui à plumes en bois, nous avons pu sortir un petit rouleau. Et là, c'est tout à fait traditionnel. C'est la liste de tous les artisans qui ont travaillé à la fabrication de la statue, c'est-à-dire les fondeurs, les mouleurs. Et il est indiqué, j'ai essayé de déchiffrer ce document assez difficilement, mais enfin on lit certains noms. Puis on lit, tous sont des Parisiens, n'est-ce pas? C'est intéressant de penser qu'on a voulu insister sur le fait que c'était des artisans parisiens qui avaient travaillé pour le sculpteur. Et d'autre part, ce qui m'a vraiment étonné beaucoup, c'est qu'ils ont à peu près tous signé. Ça veut dire que ces fondeurs et ces mouleurs savaient signer, n'est-ce pas? C'est tout à fait touchant. Alors voilà le secret des boîtes noires.
Le secret est levé. Alors toute cette histoire, Jean-Pierre Bablon, vous l'avez rédigée dans un volume qui est le numéro 87 d'une publication tout à fait originale qui s'intitule « Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piau ». Alors cette fondation, vous allez nous en dire un mot pour qu'on la découvre.
Tout à fait. Eugène Piau est un archéologue du 19e siècle qui a décidé de laisser une somme d'argent à l'Académie de façon à lancer, donc à pouvoir éditer d'une façon régulière une collection qui s'appelle « Monuments et mémoires ». Nous tenons tout à fait à poursuivre ce vœu d'Eugène Piau et nous le faisons avec mes deux confrères de l'Académie d'inscription, M. Marcadet et M. Jarige, dont vous connaissez les les orientations historiques et archéologiques différentes de moi, c'est-à-dire que nous couvrons un très vaste domaine avec M. Marcadet, toute une grande partie de l'archéologie antique, avec M. Jarige, l'Orient et l'Extrême-Orient, avec moi-même la partie Renaissance et classique. Donc nous sommes attentifs à ce que ces volumes soient vraiment une présentation d'objets d'art, d'objets archéologique analysé avec un esprit neuf et qui montre la destination, la réalisation, le sens profond de certaines œuvres qui nous échappaient. S'ils sont des œuvres, des objets de fouille, objets par exemple retrouvés dans les glides du Rhône à Arles, par exemple, ou enfin toutes les nouvelles découvertes archéologiques sont ici présentées avec une présentation iconographique très importante et bien sûr un appareil critique à la hauteur de ce qui est dit par les auteurs.
On peut d'ailleurs se procurer ces volumes, donc Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Pio, auprès des éditions de Bocard. Monsieur Bablon, est-ce que récemment vos pas qui vous portent souvent vers les châteaux, si j'ai bien compris, ne vous ont pas permis une autre découverte en lien justement avec cette statue, ces statues dont nous parlons ?
Voilà, il se trouve que j'étais il y a quelques jours au château de Chantilly. Vous savez, les grands travaux qui sont entrepris par la Fondation du Prince Agacan pour restaurer à la fois l'architecture du grand et du petit château, mais également du parc, de tous les environnements, des parterres, des canaux. Bon, c'est une très grosse opération qui est engagée en ce moment, qui, je dois dire, a été un petit peu ralentie pour ce qui est des parterres de Chantilly par le froid glacial qui a empêché les équipes de travailler sur le terrain pendant quelques semaines. Mais j'ai pu voir les résultats déjà de ce qui avait été dessiné en fonction de notre désir de revenir véritablement à l'état qu'avait prévu le duc d'Aumale pour son si beau domaine. Et il se trouve qu'hier, voilà, j'étais convié à regarder la fin de la restauration d'une autre statue équestre, c'est-à-dire que je suis monté, comme je l'avais fait quelques années auparavant, dans la statue d'Henri IV dont nous venons de parler. Je suis monté en haut de l'échafaudage avec mes confrères et tous les responsables de cette restauration et j'ai pu comparer la façon de traiter le cheval et le cavalier. Cette statue, c'est la statue du connétable Anne de Montmorency qui a été terminée en 1886 à la demande du duc d'Aumale et qui était une œuvre du grand sculpteur Paul Dubois. Et l'œuvre de Paul Dubois témoigne à la fois, bien sûr, de ce désir de s'implanter dans la lignée des statues équestres et des grands hommes, premièrement. Des grands hommes qui ont fait la France aussi. On l'a remarqué, notamment, qu'il y avait un effort de la représentation des grandes figures de l'histoire de France qui suivaient la défaite de 1870. C'est des observations qui sont faites assez récemment, notamment les représentations de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? N'est-ce pas comme ça dans le ciel, sans que véritablement elles veulent dire quelque chose par rapport au désir de revanche ou de réaffirmation de l'unité française.
C'est politiquement choisi, bien sûr.
Tout à fait choisi. Et j'ai vu donc la façon dont Paul Dubois traitait l'épiderme du cheval et l'armement du connétable. L'épiderme du cheval, c'est absolument incroyable. Un naturalisme de la peau qu'on sent presque frémir, n'est-ce pas ? Et que l'excellente entreprise qui a fait la restauration de cette statue, qui est maintenant terminée, a pu rénover avec un traitement de la patine que j'ai beaucoup admiré et qui m'a permis de comparer ce qui avait été fait tout récemment à Chantilly avec ce que ce grand restaurateur du bronze qui est Carlo Usai avait fait à l'Henri IV de Paris.
Et bien là, c'est Henri II qui, dans sa tombe, doit s'en réjouir, puisque c'était lui qui avait fait revenir le connétable de Montmorency, si je crois ma mémoire, enfin, il me semble. Eh bien, Monsieur Bablon, je vous remercie infiniment de nous avoir fait rêver avec cette monumentale statue. Et je suis sûre que maintenant, nous la regarderons avec des yeux tout neufs, grâce à vous. Merci infiniment.
Merci, madame.